Bon jeudi saint, comme vient de me le dire mon collègue Mathieu. 29 mars, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne. Semaine de 4 jours, demain congé pour plusieurs d'entre vous. Et nous, on sera de retour mardi, mais on est bien là aujourd'hui même. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais très bien.
Oui, vos chocolats sont achetés?
Ils sont même déjà en train d'être digérés, ma chère.
Mais je parlais des chocolats que vous allez offrir à ceux que vous
Absolument,
aimez.
Je suis incapable. Je les achète en prévision de les donner. Mais rendu chez moi, les boîtes sont déjà à moitié vides.
Vous n'êtes pas raisonnable.
Absolument pas.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais produire mon propre chocolat.
Oui, vous êtes capable de faire ça, vous?
Je vais découvrir la façon. J'ai 2 jours.
Vous dites n'importe quoi.
Ben non, je suis un homme...
Oui,
un homme,
moi, je vous verrai faire de l'improvisation mix sur le thème
chocolat.
Du n'importe quoi au chocolat.
Voilà.
Hein? Alors, mon cher, demain, c'est l'anniversaire d'une grande, la diva de Charlemagne. Céline
oui,
Dion.
Ben oui.
Et puis, comme on ne sera pas en onde, ben aujourd'hui, on va lui faire quelques petits hommages en l'écoutant chanter
ben
au moins
oui.
3 fois pendant l'émission.
Moi, je suis très content. On en fait rarement jouer.
Mais 50 ans! Quand on l'a connue, elle avait 13 ans. Alors, c'est pour ça que ça frappe l'imaginaire.
Ça fait longtemps
qu'on demi-siècle pour cette petite chanteuse devenue très, 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 très grande. Alors Mathieu, on vous écoute dans les éphémérides à la veille de la fête de Céline.
Oui.
Donc, 29 mars, est-ce que c'est la journée internationale de quelque chose?
C'est la journée mondiale de l'allaitement.
Ah oui, important.
Bon verre de lait avec un bon morceau de chocolat. Bon, c'est évidemment...
Point de suspension.
Point de suspension. Et il y a aussi... que s'est-il passé? Ben, en fait, en 1673, un arrêt interdisant aux catholiques les fonctions publiques entre en vigueur en Angleterre. En 1778, l'explorateur James Cook débarque à Nootka, aujourd'hui Vancouver. 29 mars 1845, adoption d'une loi de l'instruction élémentaire au Bas-Canada qui établit, entre autres, des commissions scolaires locales. En 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique est adopté à Londres, créant la confédération formée par l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. L'acte entrera en vigueur le 1er juillet 1886 en Géorgie. Le pharmacien John Pemberton concocte une nouvelle boisson, le Coca-Cola. 29 mars 1922, à Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique est ravagée par le feu. 1950, toujours un 29 mars, une loi est adoptée à Québec sur les publications et la morale publique et c'est donc la création, excusez-moi, du Bureau de la censure. 1965, à Ottawa, la Chambre des communes approuve la loi sur les pensions de vieillesse. 1971, en Californie, Charles Manson et ses adeptes sont condamnés pour 7 meurtres commis chez l'actrice Sharon Tate et les époux LaBianca à l'été 1969. 1973, les États-Unis se retirent du Vietnam après une intervention de 8 ans durant cette guerre. 1988, un incendie au consulat de l'Union soviétique à Montréal fait 3 morts. En Belgique, en 1990, l'avortement devient légal. Le candidat démocrate Bill Clinton affirme « J'ai fumé, mais je n'ai pas inhalé » en 1992 concernant son usage passé du cannabis, et en 1996, une première opération chirurgicale à un genou est diffusée sur Internet dans un hôpital en Allemagne. Et pour ce qui est des naissances, Pauline Marois, 30e première ministre du Québec en 1949, et pour ce qui est des décès, le compositeur allemand Karl Orff. C'est ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui, en ce 29 mars.
Merci beaucoup, mon cher.
Ça fait plaisir.
la une de la presse, citation, « Je sais que mon geste est impardonnable. » Après avoir plaidé non coupable lundi, l'auteur de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a finalement reconnu sa culpabilité hier. La Couronne entend demander une peine qui reflète l'ampleur du crime, alors que le président de la Grande Mosquée souhaite le maximum de 150 ans de prison ferme. Et à ce sujet, Yves Boisvert signe une chronique que je vais vous lire dans quelques instants, intitulée « Il nous reste à comprendre ». La chronique télé d'Hugo Dumas, Paul Arcand renouvelle ses vœux avec TVA. Et diocèse de Saint-Jérôme, plus de la moitié des églises menacées de fermeture, des paroissiens montent au créneau. Alors, la chronique d'Yves Boisvert, il nous reste à comprendre. Il a soupé avec ses parents, il a emprunté la voiture de son père, il s'est rendu au club de tir. Le club était fermé, il s'est rendu à la Grande Mosquée de Québec, il a tué 6 hommes, en a blessé 5 autres. Hier, Alexandre Bissonnette s'est avoué coupable de ses crimes. Il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas le défilé des témoins, les experts en scène de crimes, ceux qui ont vu la mort devant eux, leurs amis assassinés froidement. Il n'y aura pas de querelle de psychiatre sur l'état mental de l'accusé ce dimanche de janvier 2017. Il n'y aura pas de procès, mais il y a encore cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce jeune homme de 28 ans? Allait-il passer à l'acte de toute manière un autre jour, lui qui avait repéré les lieux déjà? « Je ne suis ni un terroriste, ni un islamophobe », a-t-il déclaré au juge. Lui-même dit ne pas comprendre ses gestes. Il se décrit comme une personne qui a été hantée par la peur, la pensée négative et par une sorte horrible de désespoir. Il ajoute qu'il avait des pensées suicidaires et qu'il était obsédé par la mort et qu'il se battait contre un démon qui a fini par gagner contre lui. Des paroles qui ont fait écho à bien d'autres tueries où l'auteur s'est suicidé sur place ou a fait en sorte de se faire tuer par les policiers. Des paroles qui font aussi penser à des cas de rage paranoïaque où le meurtrier se sentait persécuté ou en danger de mort. Mais des paroles trop limitées pour qu'on commence à comprendre un peu sérieusement ce qui s'est passé dans la tête du tueur, quelles ont été ses influences, ses motivations, son état mental. À certaines occasions, il a approuvé les idées de Donald Trump sur l'immigration musulmane. Aujourd'hui, il nous dit que son crime n'était ni politique ni haineux. On ne peut pas se contenter de ces quelques lignes où il demande pardon pour ce qu'il admet être impardonnable. Nous voici donc soulagés de savoir qu'on épargne aux familles des victimes l'exposé de cette rage meurtrière et le stress d'une issue incertaine. Il n'y a pas de doute que l'accusé allait présenter une défense de « folie » entre guillemets ou de « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » selon les termes du Code criminel. Contrairement à ce que beaucoup continuent à répéter depuis l'affaire Turcotte, entre parenthèses condamnée dans son deuxième procès en passant, c'est une défense qui ne réussit pas souvent quand elle est contestée. Le ministère public ne la conteste pas toujours. Il arrive même souvent que les experts soient d'accord sur un diagnostic de trouble mental. L'accusé doit lui-même présenter une preuve de ses troubles mentaux. Il ne suffit pas d'avoir des problèmes ni d'être traité en psychiatrie ou d'être sous médication. Il faut prouver qu'au moment des actes, on n'était pas capable de distinguer le bien du mal, par exemple en étant dans un état de délire profond. Bissonnette aurait donc eu beaucoup de difficultés à convaincre le jury et ses chances étaient minces d'être envoyé en établissement psychiatrique plutôt qu'au pénitencier. Mais tant que dure le débat, rien n'est totalement certain. Les familles n'auront pas à vivre ça et c'est tant mieux. Dans les circonstances, au fait, quand Bissonnette a plaidé coupable lundi, le juge François Huot n'avait pas le choix de s'assurer de son état mental, non pas au moment du crime, mais actuellement. Avec des indices de problèmes mentaux, il était du devoir du magistrat de s'assurer qu'il plaidait coupable de façon valide, libre et éclairée. Le procès n'aura donc pas lieu et tout le monde est soulagé. Mais aussi pénible que puisse être un procès, il a tout de même une valeur explicative. Le but du processus judiciaire pénal n'est pas de comprendre l'accusé, c'est de savoir si la preuve est suffisante pour le condamner. Sauf qu'inévitablement, on aborde le mobile du crime, en particulier dans un procès psychiatrique. Tout ce matériau nous manque en ce moment. L'affaire n'est pas terminée. Ces questions seront examinées au moment du débat sur la peine à infliger. La perpétuité est automatique, mais le juge peut augmenter la période d'inadmissibilité à une libération conditionnelle à 25 ans par victime de meurtre. Forcément, il sera question de la personnalité de l'accusé. Il sera également question de l'impact de ces crimes sur toutes ces familles. Il faudra qu'on en apprenne plus sur ce jeune homme. Il faudra qu'on divulgue toute l'enquête de police. Ce n'est pas par voyeurisme ou par curiosité morbide. Ce crime est un des plus graves de l'histoire du Québec contemporain. Il continue de bouleverser toute une communauté endeuillée. Il a eu un retentissement international et s'inscrit dans un climat social et politique tendu où l'on voit éclore des groupuscules extrémistes et conspirationnistes. Il faut avoir toutes les pièces du dossier. Il faut essayer de comprendre. Plus de la moitié des églises menacées de fermeture, diocèse de Saint-Jérôme, la fermeture éventuelle de plus de la moitié des églises du diocèse de Saint-Jérôme envisagée par l'évêché provoque une levée de boucliers de la part de paroissiens déçus du manque d'écoute des autorités ecclésiastiques. Le diocèse pourrait mettre la clé sous la porte de 33 de ses 54 églises actuelles dans le cadre d'une opération de rationalisation visant à consacrer ses ressources financières à sa mission de base, transmettre la parole de Jésus. Comme les fidèles ont déserté les églises catholiques, il n'est plus justifié de conserver autant de lieux de culte, explique le vicaire général du diocèse, Martin Tremblay. Notre mission, c'est de transmettre la foi, pas d'être des gestionnaires d'édifices patrimoniaux, souligne-t-il. Mais des fidèles qui fréquentent des églises menacées de fermeture sont en colère contre les autorités du diocèse, estimant que les paroissiens n'ont pas été suffisamment consultés. Notre église est en bon état, elle est en bonne situation financière, nous avons de bons revenus. Il n'y a aucune raison de la fermer, dit Louise Galland, mairesse de Sainte-Sophie. Le vicaire général Martin Tremblay assure qu'aucune décision n'a encore été prise. La commission diocésienne a diffusé l'été dernier une liste de 33 églises dont elle pourrait se départir, que le vicaire général n'a pas voulu nous transmettre. Il s'agit d'un document de travail. Quels seront les critères du diocèse pour décider des édifices à conserver? La fréquentation, les services utilisés, la situation géographique et la capacité des locaux à répondre aux besoins de la communauté, répond M. Tremblay. Le caractère patrimonial des églises ne fait pas partie de nos critères, souligne-t-il. Meurtre d'une octogénaire juive en France, des milliers de personnes marchent contre l'antisémitisme. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux politiciens et représentants de la société civile, ont défilé hier en France contre l'antisémitisme et à la mémoire d'une octogénaire juive dont le meurtre à Paris a suscité une onde de choc. La France unie contre l'antisémitisme proclamait la banderole. Mireille Knoll, 85 ans, a été tuée vendredi dernier. Son corps avait été retrouvé frappé de 11 coups de couteau et en partie carbonisé dans son modeste appartement incendié. pour terminer cette revue de presse de La Presse, l'ex-mannequin Marvia Malik est devenue la première présentatrice télévisée transgenre du Pakistan, un pas en avant pour une communauté certes reconnue juridiquement, mais qui reste très marginalisée dans ce pays conservateur d'Asie du Sud. Depuis ses débuts à l'antenne vendredi dernier, elle a reçu de l'amour et du soutien comme jamais auparavant, se félicite Marvia Malik souriante lors d'un entretien avec l'AFP. Et cette brune aux longs cheveux d'ajouter « Ma famille ne m'a jamais acceptée ni reconnue. » Les Kavajaziras, un terme désignant un troisième sexe qui regroupe tant les femmes transgenres que les travestis et les eunuques, se battent depuis longtemps pour leurs droits au Pakistan avec certains résultats.
Quand on n'a que l'amour, que nous chantait merveilleusement avec toute une voix, Céline Dion.
À la une du Devoir de ce jeudi 29 mars, une photo qui en dit long, Boufel Dia, Ben Nabdallah et Mohamed Labidi du Centre culturel islamique de Québec était quelque peu perplexe devant les explications du tueur. Attentat à la Grande Mosquée de Québec, Bissonnette assume les conséquences de son crime. Le tueur plaide coupable et présente ses excuses aux familles des victimes. L'aide à mourir sauvera des vies. Les dons d'organes pourraient augmenter de 10 % grâce à ce soin de fin de vie. L'histoire sous clé. Les archives de la Beauce ne sont plus accessibles au public, faute d'argent. Roulé dans la farine par Jouvenot, un agresseur en soutane chez les Innus, la chronique d'Odile Tremblay. Norton Pass, l'électricité du Québec voyagera par le Maine. Éducation, les écoles du Québec sont dans un piteux état. Alexandre Bissonnette a reconnu être l'auteur de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec, mais a nié être un terroriste ou encore un islamophobe. La communauté musulmane n'arrive pas à le croire. Il n'a pas été un terroriste, ce sont ses arguments, a dit perplexe le président du Centre culturel islamique de Québec. Le mal est fait, a ajouté Boufeldja Ben Abdallah. Le caractère islamophobe de la tuerie dans la mosquée de Sainte-Foy crève les yeux. C'est ce que dit le porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens, Khalid El-Ghazar. Tous les gens ciblés étaient des musulmans. Il y avait même des enfants dans la mosquée à ce moment-là. Ce sont des meurtres prémédités. Tournant son regard vers la soixantaine de personnes rassemblées dans la salle d'audience, parmi lesquelles se trouvaient 6 veuves et, dans son fauteuil roulant, Emen Derbali, qu'il a criblé de balles, il y a 14 mois, Alexandre Bissonnette a affirmé « J'aimerais pouvoir vous demander pardon pour tout le mal que je vous ai fait, mais je sais que mon geste est impardonnable. Si au moins, en plaidant coupable, je peux vous faire un peu de bien dans tout ça, alors ce sera déjà ça de fait. » L'auteur de la tuerie s'expose désormais à une peine d'emprisonnement sans possibilité de libération oscillant entre 25 et 150 ans. Le juge François Huot a fixé la détermination de la peine au 10 avril prochain. Depuis 2015, une poignée de patients québécois ayant reçu l'aide à mourir ont fait don de leurs organes après leur mort. Une expérience rare, mais jugée à ce point positive que Transplant Québec s'apprête à faire volte-face et à adopter une politique plus favorable aux dons d'organes consécutifs à cet ultime soin de fin de vie. Dans un avis diffusé en 2016, le comité d'éthique de Transplant Québec s'était pourtant montré très réticent à ce que l'enjeu du don d'organes soit abordé auprès des patients réclamant l'aide à mourir. L'organisme jugeait que cette pratique risquait d'être dommageable pour le don d'organes et susceptible d'entacher l'image de ce geste altruiste. Certains pourraient croire que des médecins suggèrent l'aide médicale à mourir à leurs patients pour obtenir des organes, mettaient en garde cet avis, précisant que l'idée du don ne devait jamais être évoquée par les médecins dans le processus entourant l'aide à mourir. L'idée d'un don n'était éthiquement acceptable que si le patient en faisait lui-même la demande. Si la personne est assez compétente pour consentir à l'aide à mourir, elle est aussi assez éclairée pour donner ses organes, croit maintenant le docteur Weiss. Compte tenu de l'importance accordée à l'autonomie du patient, ces derniers doivent être pleinement informés de tous les enjeux soulevés entourant leur décès, ajoute-t-il. Budget du Québec, une école sur deux est en mauvais état. Le déficit d'entretien est passé de 1,8 milliard à 3,3 milliards en une seule année. La moitié des 2700 écoles primaires et secondaires du Québec sont en mauvais ou en très mauvais état, a découvert le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en augmentant le rythme d'inspection des bâtiments. Les immeubles scolaires se sont considérablement dégradés au cours de la dernière année, indiquent les documents budgétaires dévoilés mardi. Sur une échelle de A à E, la cote moyenne des écoles québécoises est désormais de D, bâtiments en mauvais état. À peine 45 % des écoles primaires et 53 % des écoles secondaires sont dans un état satisfaisant ou mieux. Des sommes totalisant 1 milliard de dollars ont été allouées aux commissions scolaires pour des rénovations d'écoles au fil des ans, mais n'ont pas été dépensées, indiquent les documents budgétaires. La raison est fort simple, a expliqué le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx. Les travaux doivent se faire durant les vacances d'été pour éviter de déranger les élèves. La brièveté de la saison, conjuguée au nombre restreint d'entrepreneurs dans certaines régions, laisse peu de marge de manœuvre pour faire les travaux. C'est un défi, les écoles vétustes. Je n'en veux plus de ces écoles vétustes, mais ça va prendre de nombreuses années pour rénover les écoles, a dit le ministre Proulx. Ottawa prévoit 500 millions en aide aux minorités linguistiques. Le plan d'action sur les langues officielles du gouvernement Trudeau prévoit 500 millions sur 5 ans. Environ les deux tiers de cette somme iront directement dans la poche des organismes dans les communautés de langues minoritaires. Cet argent s'ajoute aux 2,2 milliards sur 5 ans qu'elles reçoivent déjà de façon permanente. C'est donc le plus gros investissement en langues officielles de notre histoire, a indiqué la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly mercredi en conférence de presse dans le gymnase de l'école Morrill-Bélanger à Ottawa, où étaient réunis des dizaines d'intervenants du milieu francophone. Elle a dévoilé en compagnie du premier ministre Justin Trudeau son plan d'action 2018-2023, qui doit mettre fin à 10 ans de stagnation financière pour les communautés de langue minoritaire. Le gouvernement Trudeau veut ainsi marquer le retour en force du fédéral comme défenseur des langues officielles. Ici Hélène Denis, merci d'écouter le quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M, de Vues et Voix, la radio de Vues et Voix. Restez avec nous, la suite de l'émission dans quelques secondes, minutes.
N'est pas trop jeune pour aimer.
Céline Dion, Lolita, trop jeune pour aimer.
En une du Journal de Montréal, le tueur de la mosquée plaide coupable. Il risque 150 ans de prison. Pour le plus gros rassemblement annuel de motards, plus de 700 Hells Angels attendus au Québec. De plus en plus de « travaux palliatifs » entre guillemets, nos infrastructures se dégradent encore. Saveur des restos pour Pâques. L'homme allergique au saumon règle hors cours. Il poursuivait un resto pour 490 000 $ après avoir été dans le coma. L'homme qui a failli mourir d'une réaction allergique après avoir mangé une bouchée d'un tartare au saumon a conclu une entente avec le bistrot incriminé. Son conjoint et lui réclamaient plus d'un demi-million de dollars. Simon-Pierre Canuel a passé environ une semaine aux soins intensifs, a subi un arrêt cardiaque et a été 2 jours dans un coma provoqué après avoir mangé un tartare de saumon le 29 mai 2016 au bistrot Le Tapageur de Sherbrooke. Il poursuivait les administrateurs du restaurant Francine Larochelle et Jasmin Vallière, ainsi que le serveur Julien Vizina. Les parties ont conclu une entente à l'amiable qui leur évite la tenue d'un procès. Le montant du règlement n'a pas été dévoilé. Les infrastructures mal en point, le déficit d'entretien pour les ponts et chaussées du ministère des Transports a atteint 14,7 milliards de dollars. Malgré d'importants investissements, la moitié des 30 900 km de route est toujours dans un mauvais ou très mauvais état, révèlent des données publiées par le Conseil du Trésor. Mais c'est la dégradation des ponts, viaducs, échangeurs qui suscite encore plus l'inquiétude. L'état moyen des structures du réseau supérieur du ministère des Transports, MTQ, est passé de satisfaisant C à mauvais D cette année, alors que le déficit de maintien d'actifs a explosé de 5,6 milliards de dollars à 7,9 milliards de dollars pour cette catégorie. La proportion des ouvrages dans un état satisfaisant ou mieux a chuté de 53 à 49 % en un an. Si l'on y ajoute le déficit d'entretien des chaussées, le passif total du gouvernement a atteint 14,7 milliards contre 12,8 milliards l'an dernier. Chez CAA Québec, on reconnaît que le gouvernement consacre des sommes importantes à la réfection des routes et infrastructures, 16 milliards au cours des 10 prochaines années. Mais ce qu'on se dit comme automobiliste, c'est qu'on est en droit de s'attendre à un réseau routier performant et sécuritaire. Entre développer le réseau et entretenir ce qui est en train de se dégrader, pour nous, le choix est clair. Il faut entretenir ce qu'on a. C'est une question primaire de sécurité, indique le porte-parole de CAA Québec, Pierre-Olivier Fortin, en entrevue avec notre bureau parlementaire. Les Hells Angels du pays seront réunis au Québec. Des centaines de motards sont attendus pour leur rassemblement annuel. Le journal a appris de sources fiables que pour la première fois en 10 ans, les quelques 70 membres québécois des Hells vont recevoir leurs frères, entre guillemets, des autres provinces lors de leur rencontre annuelle appelée le Canada Round. Cet événement qui verra les motards défiler sur leur Harley-Davidson en arborant leur veste ornée de la tête de mort ailée, pendant qu'ils seront surveillés par de nombreux policiers, vise notamment à promouvoir l'image du club et à discuter d'affaires, d'après un rapport du Service canadien de renseignement criminel. Les policiers considèrent les Hells comme le groupe le plus dominant du crime organisé au pays, ayant notamment pris le contrôle du marché de la drogue au Québec. L'endroit et les dates de cet attroupement qui se déroule habituellement au mois de juillet restent à être déterminés. On croit que les motards se réuniront quelque part sur la rive sud. On estime que l'événement pourrait regrouper plus de 700 ou 800 motards, dont les 450 membres en règle des Hells du pays, ainsi que des aspirants du gang et des porte-couleurs de ses nombreux clubs supporters. Québec a beau aller de l'avant avec la taxation des services en ligne comme Netflix dans son dernier budget, Ottawa n'a aucune intention de lui emboîter le pas, a réitéré le premier ministre Justin Trudeau hier. Le gouvernement Couillard a annoncé mardi que les Québécois devront payer la TVQ sur les services achetés en ligne à l'étranger à partir de janvier 2019. Est-ce que le gouvernement va arrêter de se dire que c'est impossible d'agir et enfin exiger que les géants du Web paient leur juste part? A soulevé le chef parlementaire du nouveau Parti démocratique, Guy Caron. Justin Trudeau a répété la position qui est celle de son gouvernement depuis des mois, c'est-à-dire qu'il n'agira pas car il refuse d'augmenter les taxes des Canadiens. Si l'ex-chroniqueur Vincent Marissal se présente pour Québec solidaire contre le chef péquiste dans Rosemont, il pourrait contribuer à faire élire un candidat libéral, estime Jean-François Lisée. Gabriel Nadeau-Dubois a confirmé hier que l'ex-chroniqueur politique de la presse songe à se porter candidat pour QS aux prochaines élections. M. Marissal lorgne la circonscription de Rosemont, occupée par le chef du Parti québécois. S'il se dit très confiant de l'emporter contre son éventuel rival Jean-François Lisée, s'inquiète, lui, de la division du vote souverainiste, lui qui avait remporté Rosemont avec seulement 4 % d'avance sur son rival libéral. Malgré les 250 millions prévus au budget provincial pour compenser leurs pertes de revenus et de valeur des permis, les chauffeurs de taxi ne se montrent pas pleinement satisfaits. On essaie d'endormir les chauffeurs avant les élections, peste Dama Metelus, qui a intenté en 2016 une action collective contre l'État. Du côté du regroupement des propriétaires de taxis de Montréal, le vice-président Kamal Sabah se dit choqué d'apprendre si tôt que le projet pilote permettant à Uber d'opérer sera prolongé d'un an alors qu'il arrivait à échéance seulement en octobre. Mais il estime que cette compensation est positive. Les chauffeurs sont conviés le 3 avril à une assemblée générale pour voter sur d'éventuels moyens de pression. Et agacé par certaines de ses prises de position, l'Équateur a coupé Internet à Julian Assange, réfugié à l'ambassade équatorienne à Londres depuis 2012 pour punir le fondateur de Wikileaks. Le gouvernement de ce pays a annoncé hier qu'il avait coupé les systèmes de communication avec l'extérieur de l'Australien. En cas de récidive de l'Australien, Quito prévient qu'il pourra adopter d'autres mesures sans plus de précision. Le gouvernement équatorien n'a pas indiqué de quelle manière Julian Assange avait manqué à son engagement écrit pris avec le gouvernement fin 2017, selon lequel il promettait de ne pas publier des messages constituant une ingérence dans la relation de l'Équateur avec d'autres États, dont les États-Unis.
Juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêver. plus on n'oublie pas. L'enfant qui reste presque nul, est instinct d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Si tu crains cela, tout près de l'apparence tremblant petit qui nous ressemble, on sait bien qu'il est là, on l'entend parfois, sa rogue insolente qui s'entête et qui répète, on ne me quitte pas, on n'oublie jamais, on a toujours un geste.
Autre chanson de Céline Dion, c'était cette fois-ci « On ne change pas ».
Et oui, on a décidé de mettre que des chansons de Céline Dion, une façon de lui rendre hommage à l'aube de ses 50 ans de vie. Elle qui aura donc 50 ans demain, elle est née le 30 mars 1968. Les journaux régionaux, un nouveau bras pour manger, c'est dans le Nouvelliste d'aujourd'hui. C'était un jour de grande victoire pour Alain Godette mercredi. Ce trifluvien de 45 ans lourdement handicapé et qui multiplie les campagnes de financement afin de pouvoir obtenir les services pour demeurer chez lui a reçu le bras Obi, une machine robotisée qui lui permet maintenant de se nourrir seul. Une révolution pour lui qui a pris son dernier repas seul il y aura bientôt 6 ans. Alain Godette se souvient très bien du soir du 12 octobre 2012 où ses bras ont cessé de fonctionner. Atteint d'amyotrophie spinale de type 3, une maladie dégénérative qui cause la destruction des muscles, c'est ce soir-là qu'il a pris sa dernière bouchée seul. « Mon bras ne répondait plus après ça. Depuis ce jour, tous mes repas, j'ai eu quelqu'un pour m'aider à manger », raconte Alain. Difficile de ne pas partager son sourire et son enthousiasme mercredi après-midi, lorsqu'il a, grâce à Obi, porté une cuillère de compote de pommes à sa bouche, seul pour la première fois depuis plusieurs années. Le plus beau des cadeaux pour un geste qui peut paraître si banal pour nous. C'est une grande victoire et c'est aussi un gros boost pour mon estime. Non seulement je suis maintenant capable de me nourrir seul, mais en plus j'ai mené le combat pour trouver l'argent, monopoliser les gens derrière moi et amasser les fonds afin de pouvoir financer le robot. « Je continue mon combat pour rester chez moi », constate-t-il, visiblement fier. Il faut dire qu'Alain Godette est très actif dans le socio-financement depuis plusieurs années, lui qui arrive à amasser près de 24 000 $ par année afin de combler les dépenses relatives aux différentes personnes qu'il engage pour venir l'aider à son domicile. Que ce soit pour la nourriture, les soins d'hygiène ou l'entretien quotidien de sa demeure, Alain Godette peut compter sur une armée de personnes, ses anges, comme il aime les appeler. Depuis plusieurs années, il a notamment reçu beaucoup d'aide de l'humoriste Mike Ward et de l'animateur Jeff Fillion, qui lui ont donné beaucoup de visibilité, mais également ont contribué aux collectes de fonds, dont celles tenues lors de spectacles bénéfices dans le cas de Ward. Cette année, son objectif de pouvoir obtenir le OBI ou le OBI a motivé la poursuite de sa campagne de financement pour amasser les 7 600 $ supplémentaires nécessaires pour acheter le bras robotisé. Alain Godette possède déjà un bras robotisé Jaco qui lui permet de saisir différents objets et effectuer des tâches qu'il ne peut accomplir de ses propres mains. Jaco n'est cependant pas adapté pour le nourrir étant donné le manque de précision des mouvements. Toutefois, Jaco pourra servir à activer OBI alors que chaque commande donnée au robot doit se faire avec l'activation d'un bouton. Alain a de lui-même découvert que Jaco pouvait effectuer ce mouvement afin d'activer OBI, qui va par la suite chercher la nourriture dans son assiette et la porter à sa bouche. Une innovation qui a grandement intéressé les distributeurs des deux modèles de bras robotisés, qui s'inspireront d'Alain afin d'améliorer les modèles, mais aussi de former les futurs usagers. OBI vient donc s'ajouter au quotidien d'Alain Godette comme un précieux allié pour éviter ce qu'il redoute le plus, terminer ses jours en CHSLD. D'ailleurs, partout dans son appartement, on constate des gadgets, des inventions, des installations maison de sa propre invention pour lui faciliter la vie et alléger le quotidien, lui qui se retrouve cloué dans ce fauteuil, mais qui ne cesse de demeurer positif. Moi, je ne me plains jamais. Je cherche plutôt à savoir comment je peux améliorer les choses quand il y a un problème. C'est ma philosophie, résume-t-il, faisant remarquer que chaque année où il amasse suffisamment de fonds pour combler l'aide de 30 000 $ offerte par le gouvernement, il fait économiser 60 000 $ aux contribuables québécois en restant chez lui plutôt qu'en CHSLD. L'humoriste Mike Ward présentera son spectacle « Mike Ward, le magnifique » 6 en mai prochain, un spectacle qui permettra une fois de plus d'amasser des fonds pour Alain Godette. Dans la tribune Isabelle Pion, le cégep de Sherbrooke est à élaborer une formation sur la culture du cannabis. L'institution collégiale doit en faire l'annonce bientôt. Les médias ont rapporté que le cégep de l'Outaouais est aussi à mettre sur pied une telle formation, mais il ne s'agira pas de la même formule selon la directrice générale du cégep de Sherbrooke, Marie-France Bélanger. Eux, ils ont une approche créditée. Nous, il y a des besoins plus urgents. On regarde les avenues à court terme, a indiqué Marie-France Bélanger. L'institution n'a pas voulu en dire davantage, faisant valoir qu'elle n'était pas encore prête à faire une annonce officielle. La région estrienne est à développer un nouveau créneau en matière de cannabis médical. Rappelons que la compagnie ontarienne MYM Nutraceuticals, plutôt à la française, a obtenu l'approbation de Whedon d'enclencher la construction d'une serre de production de cannabis médical. Les nouvelles installations doivent permettre de produire une récolte de 66 000 livres de cannabis par année. Le projet doit regrouper 15 serres de cannabis, de même que des centres de recherche, de formation et d'interprétation du cannabis et du chanvre. Les investissements sont de l'ordre de 200 millions de dollars et le promoteur estime que 400 emplois directs pourraient être créés. À Sherbrooke, Canacher doit construire un centre de production de cannabis médical dans le parc scientifique de Sherbrooke. L'entreprise est membre du consortium Vallée Verte, dont l'un des objectifs est de faire de la région un pôle scientifique et commercial. Toujours à Sherbrooke, Neptune a réorienté ses activités, auparavant concentrées dans la production de l'huile de krill, K-R-I-L-L, pour se tourner vers le cannabis pour s'intéresser à la production d'huile de cannabis. Dans le droit, Daniel Leblanc, les élus d'Ottawa ont voté à l'unanimité mercredi en faveur de la création éventuelle d'un bureau de la condition féminine au sein de l'appareil municipal, une entité qui pourrait voir le jour au cours du mandat du prochain conseil municipal. La motion avait été déposée par deux des quatre femmes autour de la table, Diane Deans et Catherine McKinney. Celle-ci donne comme mandat à l'administration d'examiner la possibilité d'avoir non seulement un bureau, mais aussi une représentante du conseil qui agirait à titre d'agent de liaison spécial pour les questions touchant la condition féminine. Les résultats de cette étude seront intégrés au rapport d'examen de la gouvernance de 2018-2022. L'initiative a pour objectif de viser la parité des hommes, femmes et de faire progresser l'égalité entre les sexes dans le processus décisionnel de la ville. L'hôpital avant les cours, c'est dans le quotidien sous la plume de Louis Tremblay. La pénurie d'infirmières dans la région est tellement importante que le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean oblige les étudiantes du programme DEC-BAC à rentrer au travail au lieu d'assister à leurs cours ou de compléter les stages obligatoires. Le CIUS dispose d'une clause de convention collective qui permet, en cas de pénurie, d'imposer à une infirmière une pleine disponibilité. C'est ce qui se produit en ce moment. Alors que plusieurs des 160 infirmières inscrites au programme Cheminement infirmière en exercice, volet intégré, donc DEC-BAC, devront mettre une croix sur l'obtention de leur diplôme. Dans cette affaire, le CIUS, l'UQAC et la Fédération interprofessionnelle de la santé ont des contraintes différentes qui sont difficiles à concilier. L'impact de la décision du CIUS sur les étudiantes a déjà commencé à se faire sentir, alors que l'absentéisme est en augmentation dans les cours. On a déjà un cas où une étudiante a fait un quart de travail de 16 heures à minuit. Elle est demeurée en temps supplémentaire de minuit à 8 heures du matin. Elle s'est présentée pour sa journée de stage, mais son supérieur lui a demandé de retourner se reposer. Elle était à l'horaire pour le quart du soir après sa journée de stage, explique Carole Dionne, directrice du module de premier cycle en soins infirmiers à l'UQAC. L'université avait accepté certaines mesures temporaires pour permettre au CIUS de passer à travers une première crise. Il se trouve que la situation perdure et que les mesures temporaires deviennent permanentes. C'est jeudi 29 mars 2018, Hélène Denis aux commandes de l'émission Le quotidien des quotidiens. À venir, la dernière demi-heure de l'émission avec une portion culturelle et on continue aussi de offrir nos meilleurs vœux à Céline Dion qui aura, je vous le rappelle, 50 ans demain.